Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont présents sur la page Radico Libre, la page de l'émission, sur le site Radio Alpa. On aurait pu cette semaine vous parler du rassemblement suivi d'une manifestation pour le 1er mai qui a eu lieu au Mans. Oui, là, vous vous rendez pas compte parce qu'il n'y a pas d'ambiance, mais en fait, il y en avait. Oh là. La fanfare de la FSU était là. Bon, un jour, ça passera en entier. On aurait pu vous parler donc de ce rassemblement. Alors, bravo aux journalistes du Ouest France qui trouvent 500 personnes et qui l'écrit même. Quand même les services de la préfecture annoncent environ 800. Minimisé, il en restera toujours quelque chose, comme aurait pu dire l'autre. Ce sont donc 750 personnes de plusieurs syndicats, CGT, Sud, CNT, FSU, CFDT, FO, qui se sont réunis avec des particuliers, qui étaient là en leur nom propre, des associations comme la Libre Pensée, la LDH, VISA, qui est un regroupement de syndicalistes antifascistes, et des membres de partis de gauche. Ah, je n'ai pas vu de drapeau, ni de sticker, ni de panneau du Parti Socialiste. C'est peut-être un signe. Mais par contre, il y avait des banderoles, drapeaux, etc. de la France Insoumise, Révolution Permanente, Lutte Ouvrière, le NPA, le PCF, les Verts. Il y avait même des petits drapeaux de l'après et même de Debout, départ de Pont-Lieu.
Les colons n'en veulent pas.
Le de Gazard à Palin.
Les colons n'en veulent pas.
Le de Gazard.
Départ de Pont-Lieu jusqu'à la place du marché des Sablons et retour sur les bords de l'Huisne pour un petit village des luttes et puis manger des trucs. Eh, vous auriez dû venir pour vous tenir au courant des luttes qu'il faut mener et des manifs à faire. Eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net et larnapé.info, tout attaché pour larnapé, larnapee.info. On aurait pu vous parler de la flèche où le budget de la ville, passé à l'extrême droite, fait la part belle à la police municipale et à son armement, tandis que les subventions culturelles et de solidarité sont réduites. En fait, comme dans toutes les communes dirigées par l'extrême droite. Bah oui, pourtant, on vous aura prévenu. Pour en savoir plus, bien sûr, la presse locale, des amis de la Flèche. Et puis, pour élargir un petit peu l'information, allez voir sur le site de La Grande Conversation. Ils avaient fait plusieurs articles sur le sujet. La Grande Conversation, c'est la revue en ligne de Terra Nova. Terra Nova qui est proche du Parti Socialiste, dont on se souviendra qu'il est de gauche quand ça l'arrange. On aurait pu vous parler de l'état de droit. Ce dernier est basé sur l'idée de règles, appelées des lois. Et des règles communes sont opposables au Pékin moyen par les forces de l'ordre et autres personnes assermentées qui vous disent « Ah bah c'est la loi !» Ce cadre vient de voler en éclats. Attention, pas pour tout. Grâce aux lois, les libéraux en économie qui nous gouvernent renforcent très régulièrement la défense du droit de propriété que les révolutionnaires de 1789 avaient érigé en droit de l'homme. Les racistes au pouvoir renforcent régulièrement les contraintes à imposer aux étrangers, qu'ils soient sans papier ou avec. Mais par contre, quand il s'agit du droit du travail, les droitards, qui sont soi-disant nos représentants, sont beaucoup moins regardants. On pourrait même les taxer de laxistes, même si le verbe taxer ne plaît pas aux libéraux. Vendredi 1er mai, un certain Le Cornu, Premier ministre, a appelé un boulanger isérois pour le rassurer sur les amendes qu'il n'aura pas à payer, même s'il a fait bosser ses 7 salariés le 1er mai, en contrevenant donc à la loi. Alors le boulanger assure que ses salariés sont tous volontaires et qu'ils ont même signé un papier. À propos du volontariat, aucun des commentaires, alors j'ai pas tout écouté non plus, mais que j'ai entendu dans les médias, ne faisait référence au lien de subordination, donc de domination, qui tient et qui lie le salarié à son patron, ni à la capacité de nuisance et de rétorsion que possèdent les employeurs sur les récalcitrants éventuels. J'ai l'impression qu'à force de faire comme si, la réalité se dilue alors dans un discours de plus en plus mensonger qui décrit un réel à la carte, mais de moins en moins vécu. D'ailleurs, je ne sais pas trop si je suis là. Bon, alors, ceux qui ont verbalisé le boulanger isérois sont des inspecteurs du travail. Oui, il en reste. Ah ben, et c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Les macronistes, bien sûr, en bon droit tard, même si ils voulaient nous faire croire qu'ils n'étaient ni de droite ni de gauche. Ça ment beaucoup, à droite. Ouais, le problème de la sincérité. Après, l'idée, c'est quoi? C'est que vous votiez pour eux, hein. Après, advienne que pourra. Eh bien, on apprend que ces inspecteurs du travail, agents de contrôle, agents d'assistance, agents de renseignement sont de moins en moins nombreux. Entre 2010 et 2025, un tract intersyndical paru à l'occasion du 28 avril 2026, qui était la journée de lutte pour la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Eh bien, on apprend qu'entre 2010 et 2025, donc entre 15 ans, pour les agents de contrôle, c'est moins 13%. Ils sont moins de 1900 maintenant. Pour les agents d'assistance, c'est moins 37%. Ils sont moins de 600. Les agents de renseignement, ils sont moins 29% entre 2010 et 2025, puisqu'ils sont 413 actuellement. Donc, on est passé au total de 3696 inspecteurs du travail avec différentes fonctions à 2900. Voilà. Et après, on va nous dire, ah bah oui, mais je comprends pas, il y a de plus en plus de morts. Ah bah, je ne comprends pas, il y a de plus en plus. Souvenons-nous quand même que, à partir du moment où des lois ont été créées au 19e siècle pour réguler le travail, au départ, c'était surtout sur le travail des enfants. Et ces lois n'ont pas été appliquées tant qu'il n'y a pas eu un corps d'inspection du travail qui a été créé une trentaine d'années après les premières lois. Donc on sait très bien que, ben, comme tout le monde, hein, à partir du moment où il n'y a personne pour nous dire « ça, tu le fais pas », ben, les gens le font. Alors quand il s'agit d'employeurs, ben, forcément, ça peut amener un certain nombre d'accidents. On en reparlera malheureusement. De fait, ceux qui ont verbalisé le boulanger isérois, ils s'assoient un petit peu sur leur verbalisation. Et l'idée étant que moins il y aura d'inspecteurs du travail, moins il y aura d'inspection du travail, moins il y aura de vérification du droit du travail. C'est toujours la même idée, moins il y aura d'infractions. Hein. Casser le thermomètre, il n'y aura plus de fièvre. Tiens, à propos du respect des règles communes, le même jour, c'est-à-dire le 1er mai, les médias commentent la free party qui a lieu actuellement près de Bourges en répétant à l'envi que tout est illégal. Ouais, rien n'est géré par l'État, ça c'est sûr. L'auto-organisation, ça plaît pas trop aux États. Peut-être que le Premier ministre rappellera les organisateurs quand leur matériel sera saisi pour leur dire « t'inquiète, j'en parle à mes services pour la restitution ». C'est pas gagné. On aurait pu vous parler des agents provocateurs, ces personnes stipendiées par la police pour casser, pousser les autres à le faire et donc justifier la répression. C'est connu, hein, ça existe, ça existera toujours. Auparavant, ils se déguisaient pour se fondre dans la masse. Il y a encore quelques années, des flics en civil se collaient des autocollants syndicaux sur le blouson ou le jean afin de passer inaperçus. Alors, est-ce qu'ils poussaient les autres à avoir des actions illégales? J'en sais rien, mais en tout cas, ils faisaient semblant de ne pas être ceux qu'ils sont, c'est-à-dire des flics. Mais depuis, pour faire monter la sauce, les agents provocateurs sont directement en uniforme. Ouais, vendredi 1er mai, sans que l'on sache pourquoi, à Nantes, un hommage à un militant de la CGT mort récemment a été interrompu par les forces de l'ordre qui ont arraché la banderole et empêché les prises de parole. La manif syndicale parisienne a été coupée en deux par des charges et les flics qui encadraient le cortège poussaient fermement les manifestants avant d'arrêter de les pousser et de recommencer à les pousser. Ouais, et puis à la fin, ça t'énerve, tu te mets à... Eh ben, on rappellera qu'un outrage est très facile à obtenir quand on titille le Pékin moyen. À Lyon, des charges sans objet connu ont eu lieu notamment place Bellecour. Maintenant, pour repérer un agent provocateur, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vraiment le seul avantage du moment. On aurait pu vous parler de Total, l'entreprise de pollution du monde par la diffusion de produits pétroliers. Elle fait d'énormes profits. Oui. Au premier trimestre 2026, qui seront bien sûr redonnés aux actionnaires, puisque c'est quand même le but de ces gens-là. Qui aurait pu prévoir? Des commentateurs s'offusquent de l'augmentation des bénéfices et même des libéraux qui nous gouvernent, parce qu'on se laisse faire, ne s'interdisent rien. Selon la formule de Maud de Bréjon, la porte-parole du gouvernement Lecornu, à propos de la taxation des surprofits de Total liés au conflit entre l'extrême droite chrétienne au pouvoir aux États-Unis et l'extrême droite musulmane au pouvoir en Iran. Eh ben, on est bien gouverné, tiens. De fait, Total est un profiteur de guerre. Ça s'appelle comme ça. Pour tous ceux qui sont surpris, n'oubliez pas quand même que saisir les opportunités est l'objet même du libéralisme économique. Profiter du contexte pour s'enrichir, pour accumuler du pognon et éventuellement du pouvoir, c'est l'objet même du libéralisme économique. Opportuniste jusqu'au bout des ongles. Aussi, Total ne fait qu'appliquer les fondamentaux, pour parler comme un supporter de balle au pied, du libéralisme économique. Si vous trouvez ça dégueulasse, eh ben je vous propose d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de fait de devenir anticapitaliste. Mais finalement, on a préféré vous parler encore et encore d'agriculture, décidément. La dernière fois, nous avons donné la parole à un agriculteur multiplicateur qui, de fait, se présente lui-même.
Bonjour, Gabriel Potier. Je suis agriculteur multiplicateur de semences potagères, aromatiques et florales en agriculture biologique.
Il est chargé donc de multiplier les graines pour le compte d'un semencier. On a appris la dernière fois que des semences pouvaient être libres et reproductibles, mais que d'autres, et c'est la plupart, sont brevetées et infertiles ou instables. Par exemple, les hybrides F1, dont la production correspond à l'image sur le sachet de graines, mais seulement la première année. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les F1, F2 et puis ben, la génétique des plantes, eh ben vous n'avez plus qu'à décortiquer les lois de Mendel afin de savoir pourquoi la F2, donc deuxième génération, a perdu son hétérosis. Je vous laisse avec ça. Dans la dernière intervention de la dernière émission, Gabriel Potier a critiqué la bornitude française et lu plutôt l'idée de population. Eh bien, il nous en dit plus sur le sujet. Il avait pris l'exemple de la Suisse.
C'est-à-dire, que font-ils en Suisse ?
Alors, bon, la Suisse est un exemple. Nous avons aussi des paysans en France qui font ça. On fait justement ce qu'on appelle plus des populations, c'est-à-dire qu'on s'en fiche de la variété, on a plusieurs variétés. Cette population est beaucoup plus stable dans le temps, dans ses aspects de rendement justement, de vigueur, de résistance, de résilience. Donc tout ça, c'est des choses intéressantes. En gros, les systèmes qui utilisent ce genre de population sont beaucoup plus résilients et résistants aux aléas climatiques, etc. etc. Donc c'est des exploitations qui arrivent pas forcément à faire beaucoup d'argent, mais à toujours vivre, toujours résister. Et ce n'est pas le cas avec notre vision, avec nos hauts rendements et notre façon de sélectionner.
Quand vous parlez de hauts rendements, etc., mais de manque de robustesse, de résilience, il suffirait d'une maladie pour emporter l'ensemble de la production, ce qui ne serait pas forcément le cas dans l'exemple que vous donniez avec des populations plus hétérogènes.
Effectivement, quand on choisit une seule variété avec des caractéristiques bien précises, eh bien, c'est mettre ses yeux dans le même panier, tout simplement. La population ne se comporte pas comme ça, on n'a pas la même vision du vivant. Et effectivement, ça donne quelque chose de plus stable.
Je crois qu'il voulait dire « eux » et tout à coup, c'est « eux » qui est sorti. Mais oui, mettre tous ses œufs dans le même panier à partir du moment où une maladie arrive, hop, 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 ça emmène tout. Et de fait, la résilience est liée à la biodiversité. On l'avait déjà vu à propos des forêts. Alors, la biodiversité, c'est aussi la même chose pour les animaux, pour les êtres humains. Comme quoi, qui sont des animaux également, la biodiversité, il y a que ça devrait de fait dans la manière de produire les semences et quelle sorte de semences est produite. L'agriculture en France est de suite fléchée sur les rails du productivisme commercial. Il faudra des intrants issus de l'industrie chimique, comme des pesticides, des herbicides et tous ces trucs en cides, pour soutenir la pousse des plantes contre les aléas de la vie. Et des engrais pour amender des terres abîmées par des pratiques agriculturales productivistes. Et ça aussi, c'est un business. Mais l'important, c'est le rendement. Souvent, aux dépens des propriétés organoleptiques, comme nous l'avait dit Gabriel Potier, c'est-à-dire le goût et l'odeur. Oui, j'ai pas dit le bruit et l'odeur. Hein. Attention, je vais pas plagier un immense escroc qui s'appelait Jacques Chirac. Mais là n'est pas le pire. Non, le pire, c'est que les pratiques de l'agriculture productiviste entraînent une perte des valeurs nutritives des aliments. Sur le sujet, je vous conseille un article de National Geographic France de mars 2025 intitulé « Nos fruits et légumes sont de moins en moins nutritifs ». Ouais, ça change un petit peu des débats sur CNews. C'est le printemps, alors le jardinage est de coutume pour ceux qui ont un bout de terrain. Plutôt que de faire des rangs d'hybrides F1 que vous aurez achetés dans votre supermarché préféré, trouvez-vous de la semence libre et reproductible. Par exemple, chez Germinance ou la ferme de Saint-Marthe, qui sont tous les deux dans le Maine-et-Loire. Et plus loin, chez Cocopelli, voilà. La biodiversité est en jeu, alors. Mais pour faire pousser tout ça, il faut de l'eau. Et ça commence à manquer. En janvier 2026, l'ONU assure que nous sommes rentrés dans, je cite, une ère de faillite hydrique mondiale. En septembre 2025, l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, qui dépend de l'ONU également, publiait un rapport alertant sur le dérèglement du cycle de l'eau, entraînant des déluges, comme dans le sud de la Chine cette semaine, ou des sécheresses, avec leurs feux de forêt, comme aux Pays-Bas en ce moment. À noter que la Sarthe a été touchée par des feux de forêt cette semaine, fin avril. Je répète, fin avril. Des événements qui devraient nous occuper tous les jours plutôt que Plutôt que les médias nous bassinent les rouleaux avec les classements de balles aux pieds, les amours des grands de ce monde ou la volonté des gras du melon de devenir pétés de la rep l'an prochain. Ce n'est pas la faute des infos, hein. Ça les infos on les a. Bah tiens encore, cette semaine est paru le 9e rapport du programme de l'Union Européenne qui s'appelle Copernicus, qui s'occupe entre autres de documenter les conséquences du réchauffement climatique, qui est un changement, hein, mais qui a finalement conséquence principale, globale, un réchauffement. Eh bien, on apprend dans ce rapport que le continent européen se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde et donc devient de plus en plus sensible aux sécheresses. Les données sont là, indéniables, sauf par les bas du front à la Pascal Pro qui confondent toujours météo et climat. Et pourtant, la marche du monde n'est pas impactée par ces informations. Nos soi-disant représentants continuent de privilégier l'activité économique libérale et augmentent la production d'armes parce qu'il va bien falloir se taper dessus à un moment puisqu'il n'y a plus assez de richesses pour tout le monde. Soi-disant, dans l'Orne, actuellement, le niveau de la rivière Mayenne où sont pompés des mètres cubes d'eau qui alimentent les riverains en eau potable est tellement bas que 6 communes du département connaissent des restrictions d'usage de l'eau du robinet. Dans le Loiret, actuellement, des arrêtés préfectoraux de restriction d'eau ont été pris. Ça s'est passé mercredi 29 avril dans le Loiret. Mais des petits malins veulent continuer comme avant. Par exemple, des exploitants agricoles qui accaparent l'eau en remplissant des méga-bassines. Lors de la dernière réunion du collectif O72, nous avons rencontré Élodie, qui se présente elle-même, décidément.
Je m'appelle Élodie, je suis agricultrice à Malicorne-sur-Sarthe. Je suis maraîchère en maraîchage biologique et je suis irrigante.
Elle est irrigante, donc une productrice de légumes qui est aussi membre de la Confédération Paysanne et qui, comme tous, productrice agricole, pour tous ces gens-là, l'eau est une ressource essentielle à préserver. D'ailleurs, elle nous en dit plus sur le sujet.
Qu'est-ce qu'une irrigante ?
Un irrigant ou une irrigante est quelqu'un qui fait de l'irrigation ou qui irrigue ses cultures en sa qualité d'agriculteur. Voilà.
Parce que dans notre coin, là, auparavant, il y avait ce qu'on appelait l'agriculture pluviale, c'est-à-dire que je compte sur les précipitations, c'est plus possible, ça ?
Il est vrai que quand on se réfère à des gens qui ont 30 ou 40 ans de carrière, ils nous disent effectivement que ça devient de plus en plus compliqué de faire sans irrigation, et ça, c'est vrai que c'est un problème qu'il faut absolument prendre en main.
Comment vous irriguez ? C'est-à-dire d'où vient l'eau ?
Je suis irrigante sur le sous-bassin versant de Sartaval, qui est un sous-bassin versant qui se porte en général plutôt bien. On a le droit de faire un forage à peu près 39 mètres, qui nous donne un débit d'à peu près 6 mètres cubeurs. Alors désolé, c'est très technique, c'est quelque chose d'assez petit. On consomme 9000 mètres cubes par an sur 3 hectares de maraîchage. Ça sert à faire vivre à peu près 4 équivalents temps plein. Et ça sert à nourrir 150 familles à peu près en termes de légumes, en vente directe.
Vous faites partie aussi d'un collectif qui s'appelle O72. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Absolument. Alors le collectif O72 est un tout jeune collectif qui vise à essayer de préserver à la fois la qualité et la quantité de l'eau sur la Sarthe. Et donc en particulier, moi je travaille sur mon bassin versant Sarthe-Aval. Et donc on essaie de faire en sorte que des erreurs qui ont été faites soit à l'étranger, soit dans des départements français, ne soient pas faites ici.
Alors Élodie euphémise un petit peu, elle ne se lance pas tout de suite, hein, mais les pratiques que conteste le collectif O72 désignent par exemple les retenues de substitution, une expression cachant surtout des méga-bassines. Tiens, ben, c'est quoi une méga-bassine ? On redonne la parole à Élodie du collectif O72.
Et là, effectivement, vous faites référence à un terme qui énerve mes collègues, qui est le terme méga-bassine. Donc là, ils ont préféré le terme stockage vertueux ces derniers temps. Je sais qu'ils aiment bien essayer de nous faire passer des flaques d'eau pour des piscines olympiques ou l'inverse. Alors ça marche pas comme ça. Voilà. Ils essayent de faire confondre un petit peu tous les termes. Une retenue collinaire est une retenue, alors déjà de taille en général assez petite, souvent reliée à son réseau d'eau, et qui effectivement récolte les eaux de pluie. C'est très différent des bassines qu'on nous propose actuellement, qui vont en fait pomper dans les nappes l'hiver, du 15 novembre au 15 mars à peu près, pour remplir des bassines qui vont servir l'été. Alors ça pose un tas de problèmes, évidemment. On va mettre ces bassines-là dans des endroits où l'eau se porte assez mal, puisque c'est à l'endroit où on manque d'eau. Sauf que si vous asséchez un milieu qui est déjà un petit peu sec de base, ça ne va pas lui arranger sa santé. Donc évidemment, ça va poser tout un tas de problèmes. On a aussi un problème d'évaporation, ça tout le monde le connaît. Le soleil et le vent, ça fait quand même s'évaporer pas mal, malgré ce qu'on en dit. Je sais qu'on entend beaucoup de discours contraires là-dessus, mais non, scientifiquement, il faut rester sur les faits scientifiques. Scientifiquement, c'est un peu une catastrophe, quoi. Voilà. Et en plus, ça privatise l'eau que ça réserve à certains et au détriment de tous les autres, irrigants et non-irrigants. Voilà. Quand certains irrigants vont se retrouver en période de restriction, d'autres irrigants auront le droit d'arroser parce qu'ils seront connectés à cette bassine.
Eh bien, merci pour le sommaire sur les problèmes que posent les bassines, qu'elles soient méga ou pas. Alors, reprenons par le menu. Déjà, c'est quoi une méga bassine? Et puis, bah, l'eau de pluie. Ouais, ça ressemble à quoi ce machin qu'on appelle une méga bassine? On écoute Élodie du collectif O72 sur le sujet.
Ça ressemble à quoi une méga bassine qu'on appelle réserve de substitution, réserve vertueuse, réserve tout ça? À quoi ça ressemble une méga bassine?
Alors, une méga bassine, c'est plusieurs hectares qui vont être artificialisés. Vous allez voir se dresser un assez grand mur de terre. Et vous allez voir arriver une énorme bâche, plusieurs cabanes de pompe. Vous allez également voir, en général, elles sont protégées par des barrières sur le côté, avec des, bah, comme c'est assez sensible comme sujet, avec des caméras, voilà. Vraiment, j'insiste sur le côté artificialisé du sol, parce que là, on ne parle pas d'un petit hectare ou de 100 mètres carrés. Non, on parle d'une moyenne de 9 hectares, quoi, sur au moins sur les Deux-Sèvres. Et ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être des 15, des 20 hectares.
Alors, un hectare, on rappellera que c'est 10 000 mètres carrés, donc un carré de 100 mètres sur 100 mètres. Donc là, 90 000 mètres carrés, oui, ça commence à être grand.
Oui, et ces 90 000 mètres carrés qui ne vont pas être réservés à faire revenir de la forêt qui, elle, retient très bien l'eau dans le sol, qui ne vont pas être réservés à installer d'autres agriculteurs alors qu'il faudrait des agriculteurs nombreux pour une agriculture résiliente. On ne peut pas permettre ça avec une biodiversité qui est en déclin perpétuel et avec des problèmes climatiques comme on a en ce moment. On ne peut pas se permettre de faire de la maladaptation et de perdre du temps sur des solutions qui ne sont pas des solutions.
Un certain Julien de Normandie, en 2021, il était ministre de l'Agriculture, avait dit que les mégabassines se remplissaient avec l'eau de pluie. Est-ce que c'est le cas ?
Ça fait partie des grandes idées reçues. Non, c'est pas le cas. Les mégabassines sont remplies avec l'eau des nappes. Voilà. Les nappes qui sont souvent des nappes de surface parce qu'on n'a plus trop le droit de pomper dans les nappes profondes. Mais il n'empêche que ce sont des nappes qui ont beaucoup de mal à se régénérer l'hiver. Et non, c'est pas de l'eau de pluie. Et non, ce n'est pas parce que vous avez une inondation au mois de septembre que vous allez pouvoir prendre toute cette eau et qu'elle va s'envoler magiquement jusque dans votre bassine. Ça ne marche pas comme ça. Une bassine, ça prend 40 ou 45 jours à remplir. C'est extrêmement long. Il faut du matériel, ça atterrit pas dedans magiquement.
En effet, rien de magique, surtout de l'énergie et des pompes. En Sarthe, des informations non officielles font état de plusieurs projets de méga-bassines, en particulier dans le sud du département. Comme pour les entrepôts géants, d'ailleurs un collectif qui s'appelle Stop Amazon 72 lutte contre la dizaine de projets en Sarthe. Le collectif est contactable sur non-amazon72@riseup.net. Donc, comme pour les entrepôts géants, les projets de méga-bassines ne sont pas étalés au grand jour, tant ils posent de problèmes éthiques, économiques et démocratiques. En premier lieu, une question toute bête, la qualité de l'eau qui stagne dans la bassine, ça dit quoi ?
Est-ce que cette eau qui est accumulée dans une méga-bassine de plusieurs hectares reste de bonne qualité ?
Pas d'après les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur le sujet, il semblerait que une eau plus chaude et qui est en contact de l'air provoque forcément plus d'activités bactériennes, entre autres. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu de problème majeur à ce niveau-là, mais pour information, c'est la même chose dans vos nappes phréatiques, c'est-à-dire que plus vous enlevez de l'eau dans les nappes, plus les bactéries qui vont être dedans vont se concentrer.
On parlait également d'évaporation. Pourtant, c'est nié, ça aussi.
Alors oui, ça c'est vrai que c'est un truc, je ne sais pas pourquoi c'est nié à ce point-là. Tout le monde sait que si vous posez une bassine dehors, elle va se vider au bout d'un moment. Et donc là, c'est un peu le même principe, à plus grosse échelle, c'est tout.
Cette idée d'évaporation continue de faire dissensus en février dernier. Emma Aziza, hydrologue, intervenait dans un débat sur la chaîne parlementaire. Elle a rappelé le fait, et ça s'évapore. Elle a été reprise par plusieurs invités. France Info en a fait même un vrai ou faux. Une chronique où les journalistes font vraiment, ils font vraiment leur boulot, ils vont vraiment chercher les informations pour vérifier les affirmations des uns et des autres. Et ça change des interviews de Madame Bouyagé. Aziza, vrai ou faux, vous tapez ça dans votre moteur de recherche préféré et vous tombez dessus. Les méga-bassines entraînent aussi des inégalités, notamment entre les agriculteurs. On écoute Élodie du collectif O72 à ce propos.
Alors c'est bien de parler des inégalités entre agriculteurs parce qu'effectivement on a tendance à dire qu'il ne faut pas opposer les agricultures, mais de fait les agricultures s'opposent ne serait-ce que par nos conditions qui sont extrêmement différentes entre quelqu'un qui va être un gros céréalier dans la Beauce et quelqu'un qui va élever des chèvres en Ardèche, enfin, ça va être très très différent. L'agriculture n'a absolument rien à voir. Et là on parle de créer des inégalités énormes entre ceux qui vont pouvoir continuer à s'enrichir encore pendant quelques années avec un modèle qui va dans le mur, et ceux qui vont finir par se faire manger par les voisins qui sont beaucoup plus gros. Nous, ce qu'on aimerait bien qu'il advienne, ce serait plutôt de mettre en place des méthodes agroécologiques, du genre commencer par annuler les effets du remembrement qui ont été vraiment horribles pour l'eau. En fait, le fait d'avoir enlevé les haies, bah, vous avez beaucoup plus de vent. Enfin, il n'y a qu'à faire un petit tour dans la Beauce, c'est venteux au possible. Donc le vent, ça assèche. Utiliser des très grosses machines, très gros tracteurs, ça tasse les sols. Labourer aussi, ça tasse beaucoup les sols. Et ça pose un problème majeur aussi. Vous transformez vos sols en toile cirée. Nous, ce qu'on voudrait, c'est les retransformer en éponge, en mettant des talus, des petits fossés, en reméandrant les cours d'eau. Ça, mais qu'est-ce que ça ferait du bien à la nature d'avoir des cours d'eau reméandrés plutôt que des autoroutes de flotte toutes droites. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on revienne à un paysage qui ressemble beaucoup plus à, bah, je sais pas, un village comme Mézeray, qui est tout à fait charmant parce qu'il n'a jamais été remembré, plutôt qu'à la Beauce, quoi.
Donc petit à petit, quand on parle de méga-bassines, on en arrive à parler de modèles d'agriculture. Oui, les retenues de substitution sont un marqueur du productivisme libéral en agriculture. Et là, on est bien loin de la sécurité alimentaire qui nous est vendue à longueur de crise agricole. Alors, les alternatives, bah, on a demandé à Élodie et du coup, elle nous a répondu. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Alors que vous dire ? Eh bien que le programme du Centre socio-culturel autogéré de l'Allumette pour le mois de mai est sorti. On vous rappelle que ce centre socio-culturel, est présent 7 rue de la Marne dans le quartier de Pontlieu. Tous les mercredis et samedis de 14 à 19h, il y a un accueil. Donc pour les auditeurs du direct, ben, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis, il y a un grand ménage aujourd'hui. C'était de 10 à 12, vous l'avez loupé. Ah bah bien joué, hein. Et sinon, une cantine vegan, c'est le samedi 9 mai. À partir de 12h, on peut cuisiner. À partir de 9h, inscription sur l'allumettelefeu@libremail.net. l'allumettelefeu@libremail.net. Que vous dire de plus ? Eh bien que dans notre beau département, il y a des collectifs qui se réunissent. Et qui se réunissent bien. Alors, il y a la réunion du collectif O72. Et ça a lieu mardi 5 mai à 18h30 à la Maison des Paysans Paysannes, 16 avenue Georges Auric. C'est près de l'université, pas très loin de quoi, ce quartier Ribet, un truc comme ça. Enfin bon, avenue Auric, vous trouverez bien. Numéro 16, 18h30, mardi 5 mai, pour le collectif O72. Et un collectif que vous pouvez contacter sur une adresse internet, collectifo72@riseup.net. Collectif O72@riseup.net. Il y a également la réunion... Ah ben je l'ai loupé. Non, c'est moi, je vous dis des bêtises. Une autre chose intéressante, en tout cas à mon sens, puisqu'on rentre dans, début mai, on rentre dans une période de commémoration de la fin de l'esclavage, en tout cas la fin officielle, 1848, après que Napoléon Ier l'ait remise au goût du jour au début du 19e siècle, après que des révolutionnaires l'aient enlevé, cet esclavage pendant la Révolution française. Une conférence-discussion religion et esclavage avec l'historien Vincent Villemain. Ça, c'est organisé donc par le collectif du 10 mai du Mans. C'est à l'amphithéâtre Mersenne-Le Mans Université. Amphithéâtre Mersenne-Le Mans Université, c'est le 4 mai, c'est-à-dire lundi 4 mai à 17h. Pas facile d'y être quand on bosse, mais religion et esclavage, Vincent Villemain, si vous avez l'occasion. Il est maître de conférences en histoire contemporaine, amphithéâtre Mersenne, Le Mans Université. Sinon, ben, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur sarthe.demosphère.net et larnapé.info. Bon, ben, en attendant de se retrouver dans la prochaine manifestation, parce qu'il y en aura d'autres, que ça soit ici à La Flèche ou ailleurs, eh bien, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.